Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Pascal Massirika.
Avant de vous dérouler ce journal, d'abord les titres. 17 personnes tuées, d'autres grièvement blessées et des biens volés. Bilan d'une nouvelle attaque attribuée ce jeudi matin au présumé Mai Mai sur les villages de Balingina, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Komanda. Radicalisation de la grève dans les hôpitaux de Matadi. Les infirmières réclament un salaire décent et une prime de risque. Conséquence, les mamans qui sont venues pour la vaccination de leur bébé sont rentrées bredouilles. Notre invité, c'est le chef d'antenne du PDDRCS à Lubero et à Butembo. Eric Katembo appelle tous les miliciens à déposer les armes et à profiter des projets qui sont prévus pour leur réinsertion sociale. Madame, messieurs, bonsoir. 17 personnes tuées, plusieurs autres grièvement blessées et des biens volés. Bilan d'une nouvelle attaque attribuée ce jeudi matin au présumé Mai Mai sur les villages de Balingina, situé à une vingtaine de kilomètres de Komanda dans la chefferie de Walese Vonkutu. Selon des sources concordantes, les victimes sont des paysans qui se rendaient dans leurs champs. D'autres ont été fauchés dans leur maison. À Bounia, le récit d'Ezekiel Mousalia.
Vers 5 heures locales, un groupe d'hommes munis d'armes à feu et blanches a fait irruption dans le village Balingina, une petite bourgade déjà visée à plusieurs reprises par des rebelles des ADEF dans cette région. De nombreux habitants commençaient à y retourner. Mercredi, des habitants qui se rendaient dans leur champ tôt les matins ont été surpris par des tirs d'armes des miliciens, ce qui a créé une panique dans la zone. Des sources locales dans la région avancent un bilan provisoire des 17 personnes tuées, dont 11 femmes, 4 enfants, 3 hommes et 7 blessés, dont le chef de cette entité. La même source indique que la fouille continue. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme déplore cet incident qui, selon son coordonnateur, constitue une violation du processus de paix en cours. Christophe Mounyanderou invite le gouvernement provincial à déployer un dispositif important des militaires, mais aussi de convoquer des leaders des groupes armés pour trouver un compromis. Nous n'avons pas encore la réaction de l'administrateur militaire du territoire. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant 7 ans, une semaine après le carnage du 30 août dernier, les habitants de la ville de Goma attendent toujours la concrétisation des mesures qui avaient été prises par la délégation gouvernementale venue de Kinshasa. Il s'agit notamment de l'inhumation des infortunés et de la prise en charge des blessés. La coordination de la société civile affirme que l'identification des victimes se poursuit. Explication de Sifa Magro.
Pour John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, la population est encouragée à aller déclarer auprès de l'auditorat militaire leurs membres des familles disparus, blessés ou décédés, mais aussi tous les dégâts subis, notamment des maisons incendiées et autres sinistres.
Une semaine après l'événement malheureux du 30 août 2023, nous continuons à attendre le programme du gouvernement pour ce qui concerne l'inhumation de nos compatriotes qui étaient décédés ces jours-là. Pour ce qui concerne les victimes, là où il y a des disparus, là où il y a des maisons incendiées ou des dégâts collatéraux, de continuer à passer auprès de l'auditorat supérieur pour se faire enregistrer.
Notez que d'autres sources concordantes affirment que les corps des victimes gardés à la morgue de l'hôpital militaire du camp Katindo seraient déjà en état de décomposition et que l'urgence s'impose pour leur enterrement. C'est pour cette raison que certains responsables des familles des victimes n'accèdent pas à la morgue pour identifier leurs membres des familles. D'autres familles déclarent que leurs membres restent disparus jusqu'ici et elles n'ont aucune nouvelle le concernant. Goma, Sifamagour, Radio Okapi.
Nord Kivu, encore une centaine de victimes des différentes guerres enregistrées dans le Kivu ont échangé hier avec les responsables du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Au menu, les actions prioritaires à mener afin de trouver des solutions aux préoccupations qui ont été soulevées. Selon le directeur général de ce fonds, les deux parties ont mis un accent particulier sur la nécessité qu'il y a d'assurer la scolarisation des enfants des victimes et la mise en œuvre des projets de réparation économique. On écoute Lucien Lundi.
Ici, nous avons plusieurs victimes de violences sexuelles liées au conflit, mais également beaucoup de victimes des agressions armées depuis l'époque de l'AFDL, les ADF, aujourd'hui les terroristes du M23. Nous avons échangé sur les priorités ou les actions prioritaires qu'il nous faudra poser ici à Goma, ou du moins dans le nord Kivu. Nous allons faire en sorte, dans le mois qui vient, en tout cas, prendre en compte les priorités. Pour nous, c'est important en tant que Fonarev de ne rien faire sans les victimes. On est vraiment dans le cadre de notre feuille de route prioritaire. Ils ont exprimé un certain nombre de besoins. Donc par rapport à leurs priorités, nous verrons quelles sont les actions prioritaires, c'est-à-dire en termes de réparation collective. Quand on parle par exemple des enfants ou des hôpitaux, ça, ce sont des réparations collectives. Ils ont par exemple parlé aussi de construire des mémoriaux, hein, en souvenir, en mémoire de toutes nos victimes. Ça aussi, ce sont des priorités.
J'ajoute que la délégation du Fonarev a également rencontré hier les autorités locales et d'autres associations des victimes. Autre nouvelle en plus, bref, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a qualifié hier de mépris pour la justice congolaise et les victimes la récente désignation du général Nduru Chaligonza pour assumer l'intérim du gouverneur, le général Constant Ndima, au poste de commandant des opérations au Nord Kivu. Dans son tweet, Denis Mukwege rappelle que le général nommé est un ancien de la rébellion RCD-KML et de l'ex-UPC. Il est également connu comme proche de Thomas Lubanga et de Bosco Ntaganda, tous deux poursuivis et jugés par la Cour pénale internationale. En réaction à cette préoccupation, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, affirme que le gouverneur Constant Ndima, qui est rappelé à Kinshasa pour consultation, n'a pas été remplacé par le général Chaligonza. Ce dernier assume plutôt l'intérim. Et puis, le porte-parole des opérations Sokol 1 Grand Nord qualifie d'inacceptable la création ces jours-ci des groupes armés par certains Congolais et leur collaboration avec les rebelles ougandais de l'EDF dans les territoires de Beni. Le capitaine Anthony Mwalushai appelle la population à cesser de prêter main forte aux ennemis de la paix. Appel lancé au lendemain de l'attaque du camp militaire d'Eringeti par des miliciens locaux. Dans le Kwilu, un caporal des FARDC, un milicien du groupe Mobondo, sont actuellement en procès devant le tribunal militaire de la garnison. Ils sont accusés de meurtre et de mouvement insurrectionnel. Hier, le tribunal a débuté l'instruction de leur dossier après leur identification. Les deux prévenus ont été arrêtés dans la province voisine du Kwango où ils ont commis leur forfait. À Bandunduville, Irène Boma.
Le tribunal militaire de garnison de Kikwit, présidé par le major magistrat Bienvenu Mwanansele, a débuté hier mercredi à Kikwit l'instruction des deux dossiers. Le premier, c'est celui du caporal Boussimo Kitabwino alias Meshak. Celui-ci est poursuivi pour meurtre du premier sergent-major Kwato Ibo Mephis en date du 16 août 2023 à Bukangalonzo, dans la province du Kwango. Les sources proches de ce tribunal qui livrent cette information renseignent que les prévenus auraient tiré 3 coups d'effet sur la victime. Et les dossiers suivants concernent le nommé Mwanza Mabanza alias César, un des membres de la milice Mobondo, poursuivi pour mouvement insurrectionnel. D'après les mêmes sources, ces présumés miliciens auraient participé au maître du fait, lieutenant-colonel Bienvenu Kabwe au village Bachongo, toujours au Kwango en date du 12 mai dernier. Plusieurs effets militaires ont été trouvés entre ses mains, notamment les galons de cet officier militaire tué et un chargeur d'armes AK-47 avec des munitions, a-t-on appris des sources du tribunal. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
L'actualité sur Radio Okapi, c'est aussi la radicalisation de la grève des infirmiers dans les hôpitaux de la ville de Matadi au Congo central. Ils réclament un salaire décent et leur prime de risque. En conséquence, les mamans qui sont venues pour la vaccination de leur bébé sont rentrées bredouilles. Pour en parler, retrouvons à Matadi Nana Plurich Mambou.
À l'absence des infirmiers, les activités médicales telles que la consultation prénatale CPN et la consultation préscolaire CPS sont en souffrance dans des hôpitaux publics de la ville de Matadi. Hier mercredi, les mères qui y ont amené les bébés pour l'apaiser et la vaccination dans le cadre des consultations préscolaires avaient rebroussé chemin. Et d'autres avaient pris la direction des hôpitaux privés, lesquels ne reçoivent pas la quantité importante des vaccins. Cette grève sèche des infirmiers handicape aussi le fonctionnement des hôpitaux, comme l'affirme le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kiamvu, Dr Ferdinand Ango.
Nous risquons de tomber dans un chaos parce que les médecins ne peuvent pas tout faire. Les activités préventives, comme la CPS, aucun médecin n'est capable de le faire. Quand ils sont en grève, en tout cas, ils sont paralysés. Parce que l'infirmier, c'est celui qui a la base, qui fait le tout. Les médecins ne sauront pas tenir un hôpital à l'absence des infirmiers. C'est vraiment ça, c'est impossible.
À en croire Freddy Mpoati, secrétaire exécutif provincial de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique en sigle, les Congo central compte près de 5000 infirmiers non alignés à la prime des risques, dont le montant est de 160 000 francs. Cette grève pour revendiquer entre autres l'alignement à la prime des risques et la mécanisation au salaire se poursuivra jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause, a-t-il indiqué. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Partons maintenant pour le Sud Kivu où les frais scolaires sont fixés à un seuil minimum de 6 000 francs congolais sur un plafond de 140 000 francs congolais pour le cycle maternel et secondaire public. C'est ce qu'indique en tout cas l'arrêté du gouverneur Teungwa Bijekasi rendu public mardi dernier à Bukavu. Un enseignant de l'école primaire publique est exempté des frais scolaires de ses deux enfants qui étudient au secondaire public. Radio Okapi Bukavu, Emmanuel Elamejoua Kabidi.
Le gouverneur du Sud Kivu fixe les frais de Minerval à 1000 francs congolais par élève et parent dans toutes les écoles maternelles et secondaires publiques. Ils sont perçus par le chef d'établissement et doivent être versés au compte du Fonds de promotion nationale de l'éducation. Pour le cycle maternel, secondaire général et humanité technique, le seuil minimum de frais est de 6 000 francs congolais, tandis que le plafond est de 140 000 francs congolais par trimestre. L'autorité provinciale insiste sur la gratuité de l'éducation de base. Ainsi, les frais scolaires sont totalement supprimés pour le cycle primaire de l'enseignement public. Désormais, tout enseignant d'une école primaire publique qui a des enfants au secondaire public est totalement exempté des frais scolaires pour deux de ses enfants. Cela à condition que cet enseignant produise des preuves et obtienne une attestation du directeur de sa province éducationnelle. Cet arrêté du gouverneur prévoit aussi des sanctions contre tout agent et cadre de l'EPST qui violerait ces dispositions en exigeant des frais dits illégaux. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa, où la Commission électorale nationale indépendante a convoqué l'électorat le 1er septembre dernier pour la présidentielle. Le bureau de réception et de traitement des candidatures installé au siège de la CENI dans la capitale sera ouvert du 9 septembre au 8 octobre prochain. Quelles sont les conditions requises pour briguer la magistrature suprême? Tentative de réponse avec vous, Esther Ndalafina.
Commençons par dire que conformément à l'article 100 de la loi électorale, la circonscription électorale pour l'élection du président de la République est le territoire national. Le bureau de réception et traitement des candidatures est installé au siège de la CENI. Il sera ouvert du 9 septembre au 8 octobre 2023, soit 30 jours. C'est-à-dire, le candidat désireux briguer à la magistrature suprême doit se rendre à Kinshasa pour postuler. Cependant, pour être éligible, le candidat doit posséder la nationalité congolaise d'origine, un âge minimum de 30 ans, il doit jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. En plus, le candidat doit être un électeur enregistré ou alors il sera inscrit lors du dépôt de sa candidature, raison pour laquelle dans le BRTC, il y a un kit d'identification et d'enregistrement des électeurs. La CENI invite à cet effet le candidat indépendant, les partis et regroupements politiques désireux de participer à l'élection présidentielle au strict respect du chronogramme en apprêtant leur dossier de candidature et de le déposer dans le délai imparti.
Actualité internationale.
Le nouvel homme fort du Gabon, le général Oligui Nguema, a nommé ce jeudi à Libreville le premier ministre de la transition Raymond Ndongsima, opposant au président Ali Bongo renversé par les militaires il y a une semaine. Cet économiste de 68 ans avait été premier ministre du Gabon de 2012 à 2014, mais il s'était éloigné d'Ali Bongo qui l'accusait de mauvaise gouvernance. Juste après cette nomination devant le patronat gabonais, ce jeudi, l'homme qui a renversé le président président Ali Bongo a décliné des priorités de son gouvernement de transition qui devrait, selon lui, détendre le climat des affaires dans le pays. Je suis pratique et pragmatique, par conséquent, je verrai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées, a déclaré le nouveau dirigeant gabonais. Et puis, le gouvernement britannique a l'intention d'interdire formellement le groupe de mercenaires russes Wagner et de les classer comme une organisation terroriste. Ce qui signifie qu'adhérer ou soutenir son adhésion est illégal. Le projet d'ordonnance d'interdiction qui sera soumis prochainement au Parlement britannique permettra ainsi de classer et de confisquer les avoirs de l'organisation comme bien terroriste.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef d'antenne du PDDRCS à Lubero et à Butembo, au Nord Kivu. Eric Katembo Masinda appelle tous les miliciens à déposer les armes et à rejoindre au plus vite le processus de paix. Il leur conseille également de profiter des projets prévus par le gouvernement pour leur réinsertion sociale. Il s'entretient avec André Kitenge.
Eric Katembo Masinda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Parlez-nous un peu du processus dans le territoire de Lubero et aussi dans la ville de Butembo à ce jour.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À ce qui concerne ou comment se porte le PDDRCS à territoire de Lubero et à ville de Butembo, le programme se porte à merveille. La sensibilisation va bon train, comme à territoire, comme à ville de Butembo. La preuve en est qu'aujourd'hui, à Kassando, à commune de Kirumba, où se trouve le site de cantonnement pour les rendus ou des ex-combattants, nous sommes autour de 181 éléments mini d'outils de guerre, ce qui signifie ou ce qui veut dire armes et munitions ou indices militaires. La sensibilisation va bon train. Et nous avons les ex-combattants venus de différents groupes armés, notamment ceux qui viennent du FPP bar AP, du général autoproclamé Kabido. Les autres viennent de l'UPLC avec le chef du mouvement, Monsieur Kambale Mayani. Et les autres viennent d'autres groupuscules qui ont tendu la main au président de la République qui avait lancé le message selon lequel les PDDRCS est l'unique voie aujourd'hui en accordant la dernière chance aux groupes armés d'embrasser les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
Rencontrez-vous certaines difficultés?
Absolument oui, monsieur le journaliste. Les difficultés ne manquent jamais. Allez-y comprendre que partout où il y a du boulot, où il y a du travail, on doit s'y mettre et certes les difficultés ne peuvent pas manquer. Nous avons la toute première qui est lié aux conditions d'hébergement. Ça fait presque 3 semaines que nous avions connu une tempête à Kassando qui avait emporté toutes les tentes dans lesquelles abritaient les rendus. Et maintenant, là, nous sommes ici pour voir comment nos amis, nos frères et sœurs qui sont à Kassando peuvent être hébergés dans les conditions les minimum possibles humanitaires. Nous sommes heurtés au problème d'eau potable. Nous aimerions avoir une borne fontaine au site de Kassando. À part les défis, nous avons aussi les avancées significatives, en fait, liées aux conditions sanitaires.
Vous avez rencontré le coordonnateur principal de l'unité de l'appui à la stabilisation de la MONUSCO et point focal du système des Nations Unies pour le PDDRCS, ici à Beni. Qu'avez-vous parlé au juste?
Pour nous, c'était une belle occasion de nous rencontrer avec Monsieur Khaled, lui qui est le coordonnateur national de l'unité d'appui à la stabilisation, mais aussi il est le point focal des Nations Unies pour le PDDRCS. Nous lui avons brossé d'une manière superficielle du contexte socio-sécuritaire de la zone. La zone qui veut dire l'antenne ou le territoire de Lubero et la ville de Butembo. Il y a prolifération de groupes armés à territoire de Lubero qui se crée des dissidences entre eux.
Une dernière question. Quel message lancez-vous à tous ces groupes armés qui hésitent encore à joindre le processus en cours?
Je lance un vibrant appel à nos frères, nos cousins, nos sœurs qui traînent le pas d'embrasser le PDDRCS. Je lance un vibrant appel aux seigneurs de guerre, aux membres des groupes armés, d'embrasser le PDDRCS. Lors de notre rencontre avec le point focal du PDDRCS aux Nations Unies, M. Khaled, il nous a brossé longuement des projets dont vont bénéficier les membres des groupes armés. tous ces projets viennent uniquement pour les groupes armés. Et ces projets sont là pour stabiliser.
C'était l'invité de Radio Capi, le chef d'antenne du PDDRCS à Lubero et à Butembo dans la province du Nord Kivu. Eric Katembo Massinda avait été interrogé par André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Capi. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga et Alain Rung Mouchinch qui m'ont accompagné.